Mais bonjour tout le monde. La semaine dernière, on a commencé une toute petite série qu'on termine ce matin. Si vous êtes ici pour la première fois, peut-être que ça va sembler particulier ou étrange. On fait une série sur le deuil, d'accord? C'est pas un sujet habituel les dimanches matins dans une église, mais c'est définitivement un sujet extraordinairement important que les Écritures adressent énormément. Et dans ces dernières années, puis dans les derniers mois, notre assemblée ici a été particulièrement affecté par des deuils. Et donc, on a eu à cœur cet été de prendre une petite pause puis d'explorer ce sujet-là. La semaine dernière, Louis Bourque, le directeur général de notre association, est venu commencer à introduire le sujet. Il a bien fait. Donc, je veux vous encourager. Si vous n'étiez pas des nôtres la semaine dernière, cette semaine, on s'en va dans les deuils particuliers, les départs prématurés, les deuils inattendus vraiment. Et donc, vous avez besoin de la base la semaine dernière. Alors, prenez le temps d'aller écouter, s'il vous plaît, l'exposé de la semaine dernière. Ça va vraiment vous aider à apprécier davantage ce qu'on va voir ensemble ce matin, alors qu'on parle des départs prématurés, des départs difficiles. Et puis, les questions auxquelles on veut répondre ce matin, c'est comment est-ce qu'on vit ça? Comment on vit des deuils, des départs prématurés, lorsque des gens nous quittent trop tôt? Pas selon ce qu'on est habitué, n'est-ce pas? On est plus habitué. L'humanité s'est accoutumée, si on peut dire. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais avec le départ de nos aînés. Mais il y a d'autres départs qui sont extraordinaires. Et comment est-ce qu'on vit ça? Et où est Dieu à travers tout ça? Dans ces moments-là, où se trouve Dieu? C'est ça qu'on veut aller voir ensemble ce matin. On va commencer avec la lecture des Écritures, on va aller dans le livre de Job, et vous allez voir ce matin, on va juste effleurer certains passages, mais on va aller voir des vérités bibliques importantes dans le livre de Job. Alors, si vous le voulez bien, on va se courber, on va aller dans un mot de prière, puis ensuite, on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, on lit dans ta parole, dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Père, on veut ce matin s'approcher de toi humblement, dans une attitude de révérence, Seigneur, parce que nous croyons en toi. Nous croyons que tu es là, Seigneur, mais en même temps, on veut reconnaître qu'il y a des moments où tu deviens extraordinairement intangible à notre foi, difficile à percevoir, ou dans notre expérience profonde, on a l'impression que tu es disparu, Seigneur. L'impression peut-être que tu nous as abandonnés. L'impression, Seigneur, même que tu en as échappé une. Alors, Père, je veux te demander ce matin de venir appliquer ta parole dans nos cœurs. Seigneur, donne-nous de recevoir les vérités de ta parole, qu'elles puissent vraiment nous transformer, nous consoler, comme on vient de le lire. Donne-moi, Seigneur, cette sensibilité et cette grâce nécessaires. Remplis-moi de ton esprit, remplis-nous de ton esprit, afin, Seigneur, que ces vérités soient abordées avec grâce, avec douceur, avec amour, Seigneur. Et viens nous transformer à ton image, Jésus. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Job, au chapitre 1, versets 1 à 22, dans la nouvelle édition de Genève. Donc Job, au chapitre 1, versets 1 à 22. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. » Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Et se prosternant, il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. »
Merci, Jérémie. Ce matin, on parle des deuils difficiles. Maintenant, tous les deuils sont difficiles, d'accord? Je veux pas être insensible d'aucune manière ce matin, puis ce qu'on va aborder ensemble, j'ai pas le loisir de m'asseoir avec vous, puis d'écouter ce que vous vivez, puis de prendre le temps de l'appliquer personnellement, mais nous croyons profondément, fermement, dans l'existence de Dieu, puis dans la présence de l'Esprit-Saint. Et c'est à l'esprit de venir appliquer dans vos cœurs, dans vos situations, chacun personnellement, les choses qu'on va voir ensemble. Mais lorsqu'on a pensé à cette série-là, on a pensé parler du deuil, tout simplement, qui a des éléments communs à travers tous les deuils. Puis Louis l'a bien fait la semaine dernière. Il a vraiment bien mis la table. Je suis très reconnaissant. Et on a pensé parler des départs prématurés. Comme je le disais tout à l'heure, c'est comme si l'humanité a appris un peu à apprivoiser la mort, et la mort fait partie à quelque part de la vie. Mais il y a de ces morts qui surviennent qui étaient totalement inattendues, pour lesquelles on n'a pas pu se préparer. Il y a de ces morts qui sont non seulement inattendues, mais qui sont souvent atroces dans des circonstances horribles, et donc qui ajoutent à toute la souffrance. Et le livre de Job est définitivement le livre où aller pour réfléchir ensemble, pour grandir ensemble, pour apprendre non seulement à traverser, à vivre à travers ces deuils-là, mais aussi à accompagner quelqu'un à travers ces deuils. Parce que l'Église a un rôle important à jouer. L'Église de Jésus-Christ a un rôle extraordinairement important à jouer pour accompagner les gens qui passent par le deuil. Ce sont des moments importants dans la vie des gens qu'on ne voudrait pas manquer. On veut être là comme un ami, et peut-être pas comme un ami de Job, pour accompagner les gens qui passent à travers des deuils semblables. Où est Dieu? À quoi sert la foi à travers des deuils difficiles? Ce matin, on va voir ensemble que la foi ne nous est pas donnée pour nous épargner les plus grandes souffrances. mais pour nous permettre de connaître Dieu à travers celle-ci. La foi nous est donnée avec la promesse d'un jour où il n'y aura plus de souffrance. C'est ça la foi chrétienne, hein? On vit dans l'espérance d'un jour où on sera dans la gloire de Dieu, puis il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance, puis on attend, on languit après ce jour-là. Mais ici-bas, sur cette terre, contrairement, comme on va le voir ce matin, à ce que, je dirais, notre intuition nous dicte, la foi ne nous est pas donnée pour nous épargner les plus grandes souffrances, mais pour nous permettre de rencontrer Dieu à travers ces moments-là de souffrance. Amen. C'est ça la vérité. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que on va voir ensemble des principes. Dans le fond, ce que je veux vous mentionner, c'est qu'on va voir des principes, et il y a certains éléments que je vais aborder avec vous ce matin où on les voit au niveau des principes. Puis c'est un petit peu ça mon appréhension ou la mise en garde que je voulais vous faire, c'est que je n'ai pas la latitude de prendre ces principes-là puis nécessairement de les déposer au bon moment devant vous, là où vous êtes prêts à les recevoir. Et donc, pour certains d'entre vous, ces principes-là tirés de la parole de Dieu vont arriver comme un choc, puis vous allez devoir les prendre puis dire, « OK, attends un peu, là. Je ne peux pas tout absorber ça maintenant. » Vous les prenez en note, puis vous les amenez devant Dieu par la suite. Et pour certains d'entre vous, ces principes-là vont apparaître peut-être comme même inutiles parce que vous n'avez pas encore passé par des deuils semblables. Mais comme l'a dit avec une grande sensibilité pastorale la semaine dernière à Louis Bourque, ce n'est que partie remise. C'est ça la réalité, hein? Il n'y avait pas grande sensibilité, c'est une blague que Louis faisait. Ceux qui ont manqué ça, vous direz, écoutez le message, c'est très à propos quand même. Alors, ces deuils qui nous poussent à crier « Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? » Et je reviens juste quelques minutes sur l'exposé de la semaine dernière, parce qu'on doit partir là, on doit commencer là. La Bible donne tellement de réponses sur la souffrance et sur la mort que j'ai besoin de revenir avec une vision de mon expérience humaine, de l'humanité, de l'univers, une vision biblique pour pouvoir déjà trouver des réponses. Donc, on a vu ensemble la semaine dernière avec Louis que dans les desseins originels de Dieu, dans le plan de Dieu, l'être humain n'est pas destiné à mourir. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas prévu la suite. Au contraire, ça aussi, c'est dans ses desseins. Mais Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Et c'est important de reconnaître ça dans les Écritures. Parce que c'est là dans l'expérience humaine, c'est là dans la parole de Dieu, mais c'est là dans l'expérience humaine. Intuitivement, l'être humain sait qu'il n'est pas censé mourir. C'est ce qui nous aide à comprendre tout le travail que les êtres humains font. Les chercheurs du monde entier sont engagés dans une quête, arrêter la mort. Ce qu'on réussit au mieux, c'est à la reporter. C'est vrai, on la reporte de mieux en mieux. Je veux dire, il y a des gens que l'espérance de vie est beaucoup plus grande dans plein de pays dans le monde, en fait, un peu partout sur la terre. Et puis, il y a des gens qui mouraient de différentes maladies qui ne meurent pas de ces maladies-là aujourd'hui. Donc, on réussit à reporter la mort, à la repousser grâce aux avancées de la science. Mais ce que poursuit la science, ce n'est pas simplement de repousser la mort, c'est de l'arrêter. Et c'est une quête qui est là au plus profond du cœur humain. Et Dieu nous dit dans sa parole, si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, c'est vraiment le point de départ, Dieu nous dit dans sa parole que bien qu'il ne nous avait pas créés pour mourir, la mort est un jugement de Dieu. Et que les scientifiques auront beau travailler autant comme autant, on n'arrivera pas à trouver cette réponse-là. Et la raison est simple. Les Écritures nous disent que Dieu nous a créés pour faire le bien. Dieu nous a créés pour être bons les uns envers les autres, pour l'honorer lui et aimer notre prochain. Et à partir du moment où l'homme, l'être humain, l'humanité décide de se rebeller contre Dieu, il y a une cassure fondamentale qui se passe à l'intérieur de nous, qui nous sépare de Dieu et qui nous sépare les uns des autres. Même si on est ensemble, on n'est pas ensemble. Parce que trop souvent, on se comporte de la même manière qu'on s'est comporté avec Dieu et on va agir de manière égoïste. Et Dieu a déterminé que l'être humain ne vivrait pas éternellement dans cette condition-là. La mort est donc un jugement de Dieu pour nous empêcher de continuer à perpétuer cette méchanceté-là, cette rébellion-là envers Dieu, puis cette méchanceté-là envers les hommes. Et Dieu nous donne l'espoir d'un jour où ceux qui ont cru en Jésus-Christ ressusciteront d'entre les morts et il n'y aura plus cette souffrance, il n'y aura plus cette séparation-là d'avec Dieu, ni cette séparation-là entre nous. Vous pouvez croire à ça, vous pouvez ne pas le croire. Tout ce que je dis ce matin, c'est qu'intuitivement, l'être humain sait qu'il n'est pas appelé à mourir et ne veut pas mourir, puis applique toutes ses ressources scientifiques à chercher comment réussir à enrayer la mort. Dieu nous a donné un remède pour ça. Dieu nous a donné un remède pour ça. Mais ça nous demande quand même d'accepter que la mort va faire partie de cette vie-ci avant d'aller le rejoindre pour l'éternité. Donc, dans un sens, la mort est contre nature. Ça fait du sens si je dis ça? La mort est contre nature. Et donc, on peut dire que toutes les morts sont contre nature parce qu'on n'a pas été créé pour mourir. On lit dans Romains 6, 23, Louis l'a cité la semaine dernière, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Moïse écrit dans le psaume 90, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, « Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. » Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. C'est la réalité, c'est notre condition. Toutes les morts sont contre nature. Mais en même temps, il y a certaines morts qui sont vécues peut-être comme étant encore plus contre nature. On a appris à quelque part à vivre avec la mort. J'aime bien cette citation de Grégoire Lacroix qui dit « La mort en elle-même n'est pas un problème puisque c'est une certitude. » En fait, le seul vrai problème, c'est la date. S'il n'y en avait pas, hein, on n'aurait plus de problème. Mais voyez-vous, dans le fond, c'est que l'humanité, à quelque part, a appris un peu à apprivoiser la mort. Puis lorsqu'on approche de la mort, puis qu'on sait que ça s'en vient, parce qu'il y a des indicateurs, notre santé, la maladie, tout ça, on essaie de se préparer pour ça. On a appris comme à se préparer pour ce moment-là. Puis peut-être qu'il y a un problème fondamental là-dedans. Parce que si j'apprends à m'y préparer sans Dieu, peut-être que je suis aussi en train de rêver à quelque part. J'ai besoin de la révélation de la parole de Dieu pour m'y préparer comme Dieu veut que je m'y prépare. Mais il y a des morts pour lesquelles on n'a pas le temps de se préparer. Une personne qui décède en bas âge, un enfant qui décède, un décès suite à un accident, une mort violente, un suicide. On ne se prépare pas à ces choses-là. On ne se prépare pas à ces choses-là. Puis à ce moment-là, nos cœurs crient au plus profond de nous-mêmes. Pourquoi? Pourquoi? Ce matin, on se tourne vers le livre de Job pour voir comment lui, il a traversé ses deuils extraordinaires ou ses départs prématurés. Parce que Job a vécu des départs prématurés. Juste au cas où vous ne seriez pas familier avec ce livre-là, je vais juste relire quelques versets que Jérémie nous a lus tout à l'heure. Job 1, 17 et suivant. « Il parlait encore lorsqu'un autre vint, on parle des serviteurs de Job, des Chaldéens formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre serviteur vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. » C'est une fête de famille, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Les jeunes gens sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Job a vécu des départs prématurés, des départs inattendus, des choses qui font que dans ton cœur, tout ce que tu as envie de crier, c'est « Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? » Job a connu ce type d'épreuve qui te terrasse, qui te scie les deux jambes, puis tu tombes par terre, puis tu as l'impression que tu vas mourir sur place. Il y a comme un vide dans ton esprit. Les oreilles se mettent à te sciler, puis il n'y a plus rien qui fait du sens. Job a connu ça. Puis il a vécu comme les gens de son époque le faisaient. Il a déchiré ses vêtements, il s'est rasé la tête pour crier son deuil. Il s'est prosterné. Puis il est resté en silence pendant de nombreuses journées. Alors déjà, je veux faire quelque chose. On n'aura pas le temps de... On ne va pas traverser le livre de Job ce matin. Là. C'est des chapitres et des chapitres et des chapitres. Mais je veux vous dire que le livre de Job, c'est un livre extraordinairement pratique pour traverser des deuils. C'est un livre qui répond aux plus grandes questions qu'on vit à travers les deuils. C'est un livre à travers lequel on apprend à pleurer, on apprend à se lamenter devant Dieu, on apprend à accompagner ceux qui passent par le deuil. C'est un livre à travers lequel Dieu donne des réponses à ses grands pourquoi. On va l'effleurer ce matin. Mais si vous traversez un deuil, si vous traversez un deuil difficile, allez lire Job. Jour après jour, puis il y a des moments où ça va vous faire du bien, il y a des moments où ça va vous révolter, il y a des moments où vous allez avoir envie de pleurer avec Job, il y a des moments où vous allez avoir envie de crier avec Job, il y a des moments où vous allez vouloir prendre des chapitres puis aller voir vos amis puis dire, regarde, c'est ça que t'es! Même votre conjoint, qui n'est pas au même endroit que vous à travers le deuil, puis vous allez avoir le goût de dire, regarde, c'est ça que t'es pour moi, un ami de Job! Le livre de Job, je me permets de le dire comme ça, d'accord? C'est vraiment un livre thérapeutique à travers le deuil, mais de la meilleure qualité possible, parce qu'on le vit avec Dieu. Maintenant, regardons ensemble comment Job répond à ce deuil qui vient le frapper. Sa présence suffira. C'est quoi la première réponse de Job devant cette terrible épreuve? C'est comme surréaliste la manière que Job réagit. Il faut voyager, il faut aller dans des pays où les gens ont la foi et, je vais le dire comme ça, c'est triste ce que je vais dire, mais savent enterrer régulièrement leurs morts pour comprendre la réponse de Job. Ici en Occident, c'est inconcevable la réponse de Job. Job 1, 21. Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il faut voyager pour comprendre ça. On a des frères ici à l'Église qui viennent d'autres pays où vous enterrez des gens beaucoup plus souvent que nous. Vous enterrez des enfants beaucoup plus souvent que nous. Et vous avez des choses, je vous le dis, frères et sœurs, vous avez des choses à nous apprendre. Parce qu'au fur et à mesure qu'on entre dans une vie plus sécuritaire, une vie plus protégée, une vie à l'abri de la maladie de bien des manières, cette phrase-là de Job devient surréaliste. Puis je veux vous avertir tout de suite, vous allez devenir comme nous. Vous allez devenir comme nous. Parce que la mort est contre nature. Fait que si dans votre quotidien, si dans votre expérience de famille, c'est possible qu'elle disparaisse ou qu'elle s'éloigne le plus possible, qu'il y ait de moins en moins de morts, à quelque part, on a l'impression qu'on arrive tranquillement au ciel. Parce qu'on n'est pas censé mourir. C'est un jugement de Dieu. Mais je vous le dis, si vous venez d'un pays où on entend plus souvent nos proches qu'ici, on a beaucoup à apprendre de vous. Venez marcher à côté de nous quand vous nous voyez traverser des deuils. Apprenez-nous à pleurer. Apprenez-nous à pleurer. Sa présence suffira. Job donne une réponse qui est comme, pff, pas vraiment possible. Dieu a donné, Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Yeah, sure. Yeah, sure. Puis le début de Job, c'est comme le pire livre pour dire ça. Tu as l'impression qu'il y a comme une game puis que tu es juste comme une marionnette dans tout ça. Mais en réalité, le livre de Job est en train de pointer vers le fait qu'il y a des réalités, il y a des choses qui sont plus grandes que ce que moi, je peux saisir et voir avec mes yeux. Alors Job donne cette réponse-là, puis il entreprend son deuil, et puis avec les jours qui avancent, il va rester dans le silence. Il va pleurer. Mais au fur et à mesure que les jours vont passer, on va voir la réalité. La réalité d'un cri qui commence à s'installer en lui. Au fur et à mesure que Job va entrer en lui-même, comme on dit au Québec, la réalité va y rentrer dedans. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est Dieu. Je ne suis pas capable d'enlever ça de ma tête. Dieu est Dieu. Dieu est tout-puissant. Autrement, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça s'est passé, ça? Puis il reste là, prostré, atterré, pendant des jours entiers. Puis ses amis viennent vers lui. C'est vraiment beau ce qui se passe au départ. Ils sont là, écoutez, pendant 7 jours et 7 nuits, Job est là, en silence, en train de pleurer son drame, en train de vivre sa peine, puis ses amis sont là, puis ils restent en silence. 7 jours, 7 nuits. Je vais faire une parenthèse vraiment nounoune, mais ça m'a frappé pendant que j'étais en train de regarder ça. Les gars, sérieux, apprenez quelque chose. Tu sais, quand ta femme te dit de te taire, là, les amis de Job, ils étaient super bons jusqu'à temps qu'ils rouvrent la bouche. Sérieux, ils étaient parfaits. C'était comme ça coche, comme on dit au Québec. Jusqu'à temps qu'ils rouvrent la bouche. 7 jours, 7 nuits. Fait, écoute-moi, mon homme, tu peux l'écouter, ta femme. Est-ce qu'elle est mon épouse, hein, chérie? C'est vrai? Tu peux l'écouter, ta femme, en silence. Puis pense-y avant d'ouvrir la bouche, parce que ça se peut que tu scrapes tout ce que tu as fait. Toi, tu es là, puis tu veux expliquer pourquoi ça se passe comme ça dans sa vie, puis pourquoi elle souffre, puis tu veux lui donner plein de remèdes. Bravo, c'est ça qu'ils ont fait. Ça allait bien jusqu'à temps qu'il rouvre la bouche. Ça allait bien jusqu'à temps qu'il rouvre la bouche. 7 jours, 7 nuits. Ah, il y a des profondes leçons pour la vie de couple là-dedans, je vous le dis. Mais il y a une question qui est en train de jaillir dans le cœur de Job. Puis la question de Job, c'est pourquoi servir Dieu? C'est ça la question, dans le fond, que ses amis vont soulever. Pourquoi servir Dieu si Dieu permet ça à ses serviteurs, à ses enfants? Parce que comme chrétien, lorsqu'on arrive devant des deuils difficiles, on a plein de réponses. On comprend que le monde va mal à cause de la réalité du péché, puis on croit ça, puis on s'attend à ce qu'il y ait de la souffrance dans le monde, puis on attend un jour où Christ va revenir, puis on a comme tout ça, c'est là. Mais à quelque part, un jour, j'ai décidé de devenir chrétien, puis dans mon esprit, puis selon les Écritures, j'ai changé de camp. Je suis passé dans le camp de ceux qui sont venus se placer sous la protection de Dieu, de ceux qui veulent vivre selon Dieu, de ceux qui sont comme Job. Puis il y a une question qui vient s'installer dans le cœur de Job, c'est « Seigneur, comment ça peut se produire? Comment tes serviteurs, comment quelqu'un qui marche avec toi peut en venir à devoir vivre ça? » C'est pas ça sa question? C'est pas ça le débat qui va courir tout le long? Et la réponse de ses amis est assez simple. Mais Job, c'est parce que tu as péché? Quand je vous dis là, que c'est bon, tu l'as fermé, là, tu sais. Mais je veux dire, c'est ça, eux autres, ils se disent, Dieu est bon, il se passe ça. On pensait tous, nous aussi, que tu aimais Dieu, mais il faut croire que non. Pour qu'il se passe ça. Puis si Job n'a pas péché, Job est quand même en train de lutter. On le voit très bien à travers les chapitres. Parce que le pourquoi, il est là, il est énorme, il est là dans son cœur, puis il dit, « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas juste, mais je ne comprends pas ce qui se passe ici. » Et il rentre dans un débat énorme. Et c'est la question qui vient dans nos cœurs. C'est la question qui vient dans nos cœurs lorsqu'on passe à travers des deuils prématurés. parce que les autres, à quelque part, on avait appris à les apprivoiser. Mais là, on se dit que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Parce que maintenant, pour nous, la mort est naturelle. Certaines morts sont naturelles. Mais enterrer tes enfants, ça, c'est pas naturel. Un accident, c'est pas naturel. Des morts atroces, c'est pas naturel. Des suicides, c'est pas naturel. Mais la mort tout court est contre nature. Et donc, une des choses qu'on apprend à travers le livre de Job, c'est que la foi ne nous a pas été donnée pour nous épargner les plus grandes souffrances, mais la foi nous a été donnée pour qu'on apprenne à connaître Dieu à travers la souffrance. Vous ne trouverez pas dans la parole de Dieu que les chrétiens vont être épargnés des plus grandes souffrances. En fait, je vais être téméraire, puis je vais vous dire que Jésus nous a même fait la promesse que les chrétiens souffriraient plus que les autres. Parce qu'à tous les maux qui frappent les hommes, s'ajoute celui d'être rejeté à cause du nom de Christ. Bon, puis pas tant que ça ici, c'est pas difficile, mais on pourrait faire une longue liste de pays où c'est atrocement difficile d'être chrétien. Et donc, s'ajoute à cela pour nous de suivre notre Seigneur. Et notre Seigneur est mort dans une mort atroce, crucifié. C'est lui qu'on est appelé à suivre, dans l'espérance d'un monde meilleur. Job dit à ses amis, « Vous ne comprenez pas, je marchais avec Dieu de tout mon cœur, j'étais intègre, puis je me retrouve là. » Et ce matin, je vais faire un bond, d'accord? Ça va vous, peut-être que ça va vous sembler cheap si ce n'est pas là que vous êtes rendu. Mais moi, je vais le dire comme ça, j'ai eu le privilège d'accompagner beaucoup de gens à travers des deuils. En 20-quelques années de ministère pastoral, et c'est un vrai privilège. Si jamais je te dis que c'est un privilège d'être à côté de toi à travers ça, je suis très sincère. C'est pas juste une parole de consolation. Mais c'est parce qu'on veut être là dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance. Puis ça, c'est un grand privilège si quelqu'un te laisse juste marcher à côté de lui à travers ces moments-là. Puis lorsque je m'en vais à côté de quelqu'un qui est en train de souffrir comme ça, dans mon cœur, je sais déjà où est-ce qu'on va atterrir. Je sais déjà où est-ce qu'on va atterrir à la fin de la course. On va atterrir au même endroit où Job atterrit. C'est juste que je n'ai pas le droit de décider quand est-ce que l'avion se pose. Quand est-ce qu'on va atterrir dans la foi puis dans le repos? Parce que la réponse que Dieu va donner à Job, lorsque Job va commencer à rentrer dans tous ces débats-là, dans son cœur, avec ses amis, mais avec Dieu aussi, la réponse à la fin du livre que Dieu va donner à Job, il va lui dire, « Job, qui es-tu? Es-tu Dieu? » Et puis, il va dire une deuxième chose. Il va dire, « Je suis encore là à côté de toi, Job. » C'est tout ce qu'on trouve. Et c'est suffisant. C'est suffisant, je l'ai vu, pour des dizaines et des dizaines de personnes. C'est suffisant pour un grand nombre d'entre vous qui avez passé par le deuil et par des deuils difficiles. Mais lorsqu'on arrive à la fin du livre de Job, Dieu va prendre la parole, va se manifester à Job et lui pose une question. En d'autres mots, es-tu Dieu? Puis il va lui dire une deuxième chose. Job, je suis là. Tes questions n'enlève rien à mon existence et tes doutes puis tes luttes n'enlèvent rien à ma présence à tes côtés. Rien du tout. Et à la fin du livre de Job, Job va dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Quelques citations pour nous aider à laisser ces vérités-là entrer dans notre cœur. Dans la tourmente de la souffrance, Job a découvert qu'il pouvait faire confiance à Dieu et ne pas perdre la foi. Tout ce dont il avait besoin était de savoir que Dieu était là, présent avec lui. C'est comme si, à quelque part, si je suis chrétien, j'ai déjà la réponse au deuil extraordinaire. C'est le péché, puis c'est le jugement divin. Mais ils arrivent tellement vite dans ta face que ta foi est en train de perdre pied. Puis tu voudrais recevoir une autre raison particulière et personnelle. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi ici, maintenant? Et Dieu ne répondra pas à cette question-là. Parce qu'il y a des choses, puis c'est avec ça que le livre de Job commence, il y a des choses qui nous dépassent infiniment. 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 Nous trouvons toujours Dieu, inévitablement, juste là, au bout de notre corde. Lorsqu'on est au bout de nous-mêmes, au bout de nos ressources, au bout du rouleau. Et ce n'est pas qu'on ne peut pas connaître Dieu ailleurs. Ce n'est pas que c'était impossible pour moi de connaître Dieu ailleurs. Mais il y a des vérités sur la personne de Dieu. Il y a une profondeur dans ma foi. Il y a une fermeté dans ma foi qui ne viendra pas s'établir dans mon cœur si je ne passe pas par là. Si on pouvait connaître Dieu parfaitement à travers des livres et de la théorie, ce serait tellement plus simple, hein? Mais la connaissance qu'on aurait de Dieu, ce ne serait qu'une connaissance théorique. Ce ne serait pas une connaissance réelle. Dieu n'est vraiment pas intéressé à se faire connaître à toi en théorie, je te le garantis. Dieu n'a aucun intérêt à se faire connaître à toi en théorie. Dieu veut se faire connaître à toi en vérité, profondément, dans ton expérience, dans ce que tu es au plus profond de toi-même. Il va se faire connaître à toi. La connaissance de Dieu la plus intime et personnelle vient quand nous nous trouvons dépouillés de toute prétention, de toute confiance, de tout orgueil, sans réponse et remplis de questions, avec toutes nos belles œuvres devenues de la cendre. Robin Schaefer. J'ai trouvé que ça résumait vraiment bien. Et si vous allez lire la fin du livre de Job, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans tout cela. Il y a des perles extraordinaires à aller puiser là. Puis avant de terminer avec quelques leçons pratiques, je veux juste dire que dans tout ce grand débat-là que Job vit, il y a des éléments qui pointent vers notre espérance éternelle. Fait que c'est comme si, à travers les deuils difficiles, Dieu va venir me dire, « Yannick, je suis là. » Cette réponse-là est assez puissante et assez grande pour que, avec le temps, tes pieds retrouvent le roc qui est Christ. Mais en même temps, on continue à avancer à travers cette vie-là avec une espérance qui pointe vers l'éternité, qui pointe vers Christ. Puis on est dans l'Ancien Testament, on est dans le livre de Job. Je veux juste souligner trois passages. Je ne vais pas les développer ce matin, mais prenez-les en note. Prenez le temps d'aller méditer sur ces passages-là. Parce que c'est des passages qui viennent comme se résoudre. D'accord? On est vraiment longtemps avant la venue de Jésus-Christ. C'est des passages qui viennent se résoudre seulement lorsque Christ vient. Mais vous et moi, on vit après la venue de Jésus-Christ. Ces pointeurs-là dans l'Ancien Testament sont déjà résolus en Jésus-Christ. Dans Job 16, 19, à un certain moment donné, dans la souffrance de son cœur, Job va dire, « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. » Il parle à Dieu. Il dit, « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui vient nous expliquer comment réconcilier cette souffrance-là, ta souveraineté, le fait que je voulais marcher avec toi, puis cette épreuve-là que tu permets dans ta vie. Qui va venir prononcer entre nous? » Mais quand j'arrive à la fin du livre de Job, Dieu se lève puis il dit, « Sérieusement, Job, tu veux que quelqu'un prononce entre toi et moi? Tu veux pas ça. Tu veux garder la foi. Tu veux te rappeler que je suis Dieu, puis tu n'es pas Dieu. » Mais Christ est venu un jour. Christ est venu. Il est venu couvrir cette brèche-là entre les hommes et Dieu. Il est venu nous réconcilier. Il est venu prononcer entre nous. Et le jugement qu'il a prononcé, c'est que nous sommes coupables, mais que lui est mort et que sa grâce, son sacrifice, sont suffisants pour qu'on soit réconciliés avec Dieu. C'est vraiment un pointeur vers Christ, j'en ai la conviction. Dans Job 16-19, on lit « Mais maintenant, mon témoin est dans le ciel. Celui qui prendra ma défense, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. » Et aujourd'hui, si tu places ta foi en Jésus-Christ, Christ est celui qui témoigne en ta faveur auprès du Père. À travers les pires des souffrances, je sais que mon espoir, mon espérance est vivante. J'attends son retour. Je sais que ma cause est déjà gagnée auprès de Dieu parce qu'il est mon témoin. C'est par sa grâce que je suis réconcilié avec Dieu. Puis enfin, le passage vraiment le plus fort dans tout le livre de Job, dans Job 19, 25 à 27, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, Job avait l'espoir de la résurrection. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Et le mot qui est là, rédempteur, c'est en hébreu le mot goël, qui veut dire un homme qui vient pour prendre la place, qui vient pour sauver un autre homme. Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et je sais que mon Rédempteur vit et qu'un jour, je verrai mon Rédempteur face à face, face à face. Alors, les amis, la Bible nous donne toutes les réponses dont on a besoin pour traverser les deuils puis avoir la foi, même les réponses difficiles pour les deuils les plus extraordinaires. Mais la réponse, ce ne sera pas nécessairement une réponse à la question « Pourquoi? » La réponse de Dieu, souvent, ça va être « Je suis Dieu et je suis là, à tes côtés. Je ne t'ai pas quitté, même si tu as l'impression que je t'ai abandonné. » Je vais vous donner quelques conseils pratiques qui, pour moi, viennent du livre de Job. Une des choses importantes, évidemment, je l'ai dit tantôt un peu à la blague, mais on vit le deuil chacun à notre rythme. Et le livre de Job nous enseigne ça. Je crois que sur le plan relationnel, la plus grande faute des amis de Job, c'est de ne pas avoir respecté le rythme de Job. Il y avait des fautes théologiques, mais ils auraient pu discuter de ça plus tard ensemble, s'ils avaient laissé Job vivre son deuil. Une fois que Job aurait retrouvé une foi ferme, une foi apaisée en Dieu, on aurait pu discuter de toutes les questions de la terre. Et donc, chacun a son rythme lorsqu'on traverse des deuils. C'est vrai même entre conjoints, hein? C'est une des choses qui fait que certains couples ont de la difficulté à survivre à un deuil extraordinaire, une mort prématurée. C'est que les deux ne vivent pas ça de la même manière. L'Église est précieuse, les amis. L'Église est précieuse pour accompagner. J'ai le goût de vous dire la réponse que vous devriez avoir dans votre cœur. Puis lorsque vous voulez accompagner quelqu'un qui vit un deuil, la réponse que vous devriez avoir, c'est la même que celle de Dieu. Votre présence suffit. Votre présence est suffisante. Vous n'avez pas besoin de dire rien d'autre que « Je suis là ». Pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, peut-être pendant des années. Votre présence est suffisante. Parce que la réponse ne pourra pas satisfaire nécessairement. L'intellect doit satisfaire la foi quelque part. Apprenez plutôt à prier pour la personne. Vous allez toujours avoir le droit de dire, « Est-ce que tu permets que je prie pour toi? » Ici, maintenant. Lorsque j'ai accompagné certaines personnes à travers des deuils vraiment difficiles, j'ai vu mon rôle comme celui qui devait, puis je vous le dis encore avec émotion parce que je m'en rappelle comme hier. J'ai dit, « Seigneur, moi, je vais chanter des louanges. Je vais chanter tes louanges pendant que mon ami n'est pas capable de le faire. Moi, je vais dire que tu règnes encore pendant que lui n'est pas capable de le faire. » Vous comprenez? Et c'est ça ton rôle, c'est d'être là, prier. Priez pour lui avec lui, mais priez pour lui quand tu n'es pas avec lui, puis chanter les louanges de Dieu, puis avoir la foi qu'il n'y a pas à ce moment-là, sans jugement, sans jugement. Flatte-lui le dos au lieu de philosopher. C'est tout. Flatte-lui le dos. Puis tais-toi. Tais-toi. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Dieu va faire des belles choses. Dieu va faire des belles choses. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dieu veut t'apporter sa consolation dans les deuils difficiles. Puis Dieu veut nous apprendre à accompagner les gens qui vivent des deuils difficiles. Puis l'Église est un endroit extraordinaire. Si on peut apprendre simplement à marcher à côté de ceux qui souffrent, sans prétendre apporter des réponses que Dieu seul peut donner, puis à marcher à leur côté en silence. Et vous allez voir les gens, parce qu'ils connaissent Dieu, leurs pieds vont retrouver progressivement leur roc, le fondement de leur foi qui est Christ. Je termine avec ce passage-là. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. C'est ça notre espérance, les amis. Et c'est là qu'on veut garder les yeux fixés. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. On va prier ensemble avant de louer Dieu. Seigneur Jésus, on veut élever ton saint nom. Seigneur, nous sommes petits, Seigneur, mais tu nous as donné une intelligence pour poser des questions, pour interroger la vie, pour interroger l'univers, pour étudier le sens de la vie, pour étudier ta parole, pour comprendre nos pensées, pour comprendre les événements qui surviennent, Seigneur. Et lorsque des deuils extraordinaires viennent nous frapper, nous assaillir, Seigneur, notre raison, notre cœur veut des réponses. Seigneur, tu as montré à Job, à travers cette tempête horrible dans sa vie, qu'il n'avait pas à trouver les réponses à ses pourquoi, mais qu'il devait trouver simplement le Dieu qui est la réponse. Seigneur, j'aimerais te prier ce matin pour ceux qui sont encore dans des deuils très difficiles. Viens, Seigneur, te faire connaître à eux. Dans la beauté de ta personne, de ta grandeur, Seigneur, sans donner toutes les réponses, leur dire que tu es là, viens leur chuchoter à l'oreille que tu es présent, que tu es Dieu, que tu continues à régner. Et viens, Seigneur, tourner leur cœur, tourner leur esprit vers Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen.